histoire, nous la représentons par des œuvres qui viennent du Louvre, en particulier un portrait de Sylvestris III, par également des traces que l'on a pu identifier, notamment à l'époque de Darius Ier. Darius Ier, perse, l'empereur perse, occupe l'Égypte au VIe siècle avant, et va laisser une trace comme quoi il a creusé ce canal antique. C'est un canal qui va quand même fonctionner pendant 2000 ans, puisqu'il commence à fonctionner en 1850 environ avant Jésus-Christ, et qui va se poursuivre jusqu'au VIe siècle. Ce sera même le canal des grands transports à l'époque où César et Cléopâtre règnent sur l'Égypte alexandrine. Mais on a, après des périodes de haut et de bas, et finalement, au VIIe siècle, le canal va être fermé pour des raisons stratégiques, notamment pour isoler Médine de toute invasion. On ne sait pas très bien, l'histoire n'est pas toujours très précise sur ce terrain-là. Toujours est-il que la date importante qu'il va falloir retenir en notre ère chrétienne, ce sera la découverte par Vasco de Gama en 1497 du passage par le canal de l'Espérance. Ce passage de la navigation fluviale va remettre en cause considérablement la route des caravanes entre l'Extrême-Orient, la route des Indes, qui passait par le Moyen-Orient et qui débouchait sur la Méditerranée et qui était en quelque sorte le monopole de Venise. Et c'est la raison pour laquelle les Portugais, en maîtrisant cette route du sud de l'Afrique, remettent en cause la puissance égyptienne. Et on a la trace d'une démarche des Égyptiens pour creuser un canal. Et c'est la première trace de l'idée d'un canal reliant directement la mer Rouge à la Méditerranée. On n'a pas les plans de ce canal, mais on a des documents de Venise et on a notamment la trace d'une ambassade des Vénitiens qui vont rendre visite au sultan et qui lui proposent de creuser ce canal. Bon, le sultan est d'accord, mais pour la raison financière inverse, le canal n'est pas creusé. Et d'ailleurs, la puissance des Vénitiens va diminuer. On voit donc comment l'histoire de ce canal est liée à l'histoire du monde. Et puis, finalement, c'est avec Bonaparte qui envahit l'Égypte en 1798 que une transformation va se produire, et c'est là que les premiers plans vont être mis en œuvre. Bonaparte ne reste pas très longtemps, car les urgences parisiennes l'appellent, il laisse son armée, mais elle va succomber face au sultan, aux armées du sultan, et donc finalement, et puis face à la pression anglaise, il s'installe en Égypte en voulant en quelque sorte forcer le blocus, et il n'arrive pas à maîtriser cette coupe des armes, mais il introduit l'idée de modernité en Égypte, et à la faveur de la prise de pouvoir par Mehmet Ali, quelques années plus tard, l'Égypte va entrer dans une époque de modernisation. C'est quelque chose que Gilles Gautier va développer. Quelques mots sur l'idée de l'exposition de la scénographie que Clémence Jarrel a conçue. Nous avons voulu une exposition de caractère cinématographique. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire du canal de Suez, on se trouve, puisqu'il est inauguré en 1869, les travaux durent 10 ans, de 59 à 1969. Et je laisse Gilles présenter cette partie de l'histoire. Mais ce canal va, en quelque sorte, représenter la modernisation de l'Égypte. Donc c'est une histoire égyptienne que nous présentons dans cette exposition. Une histoire égyptienne confrontée au monde, et effectivement les successeurs de l'Égypte qui vont entreprendre la construction du canal avec Saïd Pacha, puis Ismaïl Pacha, voudront en quelque sorte, non pas européaniser, mais moderniser l'Égypte. Et il faut faire appel à beaucoup d'architectes, d'ingénieurs français, entre autres, pour moderniser la ville du Caire, qui dans certains de ses quartiers ressemble au Paris d'Haussmann. Et donc il y a cette volonté très forte d'intégration d'un monde dans sa modernité. Il y a un pari aussi extraordinaire, c'est que Ferdinand Lesseps et Saint-Simonien avant lui, qui veulent closer ce canal, ont des, au fond, des volontés d'universalisme. Ils pensent que ce canal va introduire la concorde dans le monde. Et la compagnie de Suez va s'appeler Compagnie universelle de Suez, créée par Ferdinand Lesseps. C'est une idéologie très universaliste qui règne d'abord. Et d'ailleurs, Bartholdi, qui, le sculpteur français, prend une passion pour l'Égypte, et qui est envoyé d'ailleurs par le ministère de la Culture, pardon, le ministère de l'Instruction publique, qui à l'époque s'occupe de la culture, est envoyé avec d'autres artistes pour faire un relevé ethnographique de l'Égypte. Et bien Bartholdi propose lui-même à Ismaïl Pacha, donc le ministre d'Égypte, de faire une sculpture, une grande sculpture, qui serait à la sortie du canal sur la mer Rouge à Suez. Et c'est une paysanne qui brandit une torche de lumière qui va éclairer l'Orient. Et puis, finalement, pour des raisons financières, parce qu'Ismaïl Pacha a beaucoup dépensé, la commande n'a pas lieu, mais c'est cette sculpture-là qui va se retrouver devenir la statue de la liberté. Donc on découvre que ce qui se passe au canal de Suez, au fond, a des résonances mondiales. Et l'exposition va montrer cet effet-là. Donc, en même temps, je parlais de cinématographie, en même temps, c'est le moment où apparaît la photographie. Donc, les témoignages, les reportages qui sont faits de la construction du canal sont faits soit sous forme de dessin et de peinture, soit sous forme de photographie. On est dans une transition du monde. Et donc, c'est intéressant de voir comment, peu à peu, la manière de rendre compte d'un événement passe du reportage dessiné au reportage photographié, puis filmé. Donc, on fera beaucoup appel à des archives, et Clémence va filmer dans les peintures qu'on a de l'inauguration, notamment du canal, de manière à ce qu'on puisse, en quelque sorte, avoir l'impression qu'on est présent. Et donc on va commencer, c'est l'idée de base de la scénographie, on va commencer le voyage dans l'histoire du canal de Suez, non pas par ses offices froids, mais par l'inauguration de 1869, en présence de la témoin de l'idée de Tessin, qui est, disons, d'un côté 1869, et cette sorte d'occidentalisation idéologique. Et puis, 1956, c'est-à-dire l'arrivée du peuple dans la prise du pouvoir du canal, il y a toute cette histoire qui va épouser les contours des brûlures du 19e et du 20e siècle, les guerres en particulier, puis les grands événements, notamment la rencontre de Roosevelt et du roi d'Arabie Saoudite en 1945 à Ismaïlia, une rencontre au cours de laquelle finalement les Américains ont supplanté les Anglais en Égypte et au Moyen-Orient en passant un accord qui existe toujours aujourd'hui, qui fait que les Américains assurent l'équipement militaire de l'Arabie Saoudite et qu'en contrepartie ce Dieu. Voilà comme quoi, finalement, à travers l'histoire d'un canal, Mehmet Ali avait pressenti ce qui pouvait se passer. Lorsque les Saint-Simoniens m'ont proposé de construire le canal, Mehmet Ali, le modernisateur de l'Égypte, a refusé. Parce qu'il se disait, mais si je construis ce canal, et ça va provoquer des convoitises et mettre l'Égypte au cœur des contradictions du monde. Donc, ses successeurs ne l'ont pas suivi, ils se sont engagés dans ce grand projet, qui est un projet pharaonien. Et donc, effectivement, l'Égypte s'est trouvée plongée dans ces contradictions, mais en même temps, grâce au canal, elle est au cœur du développement du nationalisme arabe. On le voit en 1956, et on verra plus tard dans les guerres qui ont pu se produire avec Israël, notamment. Voilà donc cette exposition, en quelques mots. C'est très difficile de résumer 4000 ans d'histoire des œuvres. Nous avons des dessins, nous avons des maquettes. C'est compliqué parce que tout ça se trouve en Égypte et que faire venir les choses d'Égypte est complexe et coûteux. Nous avons été beaucoup aidés, je tiens à les remercier, par l'association des amis de famille. Dispose de beaucoup de documents, parce que lors de la nationalisation de 1956, la SER finalement a accepté que beaucoup de documents restent propriété de la compagnie de Suez, qui aujourd'hui fait partie de l'ENG, de la société ENG. Donc nous avons un partenariat avec l'ENG et Suez, et évidemment nous avons accès à tous ces documents qui font l'objet d'un petit musée qui se trouve dans l'un des immeubles de la Défense. Je passe la parole maintenant à Gilles.